Je vous invite à prendre un texte dans Galates qui va s'afficher, voilà. Galates au chapitre 4. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs, à des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient aussi sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Amen. Et parce que vous êtes fils et filles de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils et fille. Et si tu es fils et fille, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. Quelle promesse extraordinaire de se rappeler la venue de Jésus. Nous sommes dans ce temps de l'Avent. Et nous sommes dans ce temps où voilà, il y a ces quatre dimanches qui précèdent le 25 décembre. On est au deuxième puisqu'il y a deux bougies allumées. On est vraiment dans ce temps où on se souvient de cette attente qu'avaient les frères dans la foi dans l'Ancien Testament. Cette attente, ce moment où un événement bouleversant est arrivé, et c'était pas un 25 décembre. On ne sait pas exactement, il y a des hypothèses, mais un événement bouleversant est arrivé dans l'humanité et c'est devenu le marqueur, la centralité de tout, ça a bouleversé tout. Et c'est un début de quelque chose de nouveau qui va aller jusqu'à son accomplissement entre la première et la deuxième venue, à savoir donc Jésus-Christ. Et ça a tellement bouleversé notre monde occidental que ça a marqué même notre agenda finalement, parce qu'il y a avant Jésus-Christ, et il y a après Jésus-Christ. Au temps marqué, cette date, ce zéro, est devenu vraiment un marqueur de notre calendrier et de tout notre système occidental qui a bien sûr influencé le monde entier puisqu'on est sur ce système, même s'il y en a d'autres. Et j'aimerais juste insister ce matin sur cette phrase « lorsque les temps furent accomplis ». Et avec d'autres traductions, on peut regarder « mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils ». Et une traduction que ma femme aime bien, parole de vie, petite dédicace, non je rigole, non. Mais j'ai bien aimé cette traduction. Mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Quand le moment décidé par Dieu. Alors c'est ça qui s'est passé, c'est à ce moment-là, il y a eu un accomplissement de quelque chose qui était là en germe depuis longtemps, qui était attendu. Déjà, Ésaïe le prophète disait « si tu déchirais les cieux et si tu descendais ». Et on voit que c'était tellement attendu, c'était annoncé par les prophètes que quelqu'un, que quelque chose allait se passer, que Dieu allait envoyer un Messie qui allait tout bousculer et même l'apôtre Pierre va dire tout réconcilier avec lui-même. C'est le rétablissement de toutes choses, ce qu'il va dire dans le discours, dans Actes. Et c'est vraiment central, Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus qui est descendu comme un enfant et qui était en fait Dieu fait homme. C'est extraordinaire. C'est Dieu qui a pris notre humanité, notre condition, afin de nous adopter. La Bible dit que Jésus est devenu notre grand frère. C'est le Fils aimé de Dieu qui nous a introduits dans sa famille. C'est absolument extraordinaire. Nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Par son incarnation, Jésus est devenu, le Fils de Dieu est devenu homme afin que nous devenions fils et filles de Dieu. Il nous a donné cette identité. Par sa mort, sa résurrection et son élévation, sa naissance, sa mort, sa résurrection, son élévation, il y a eu tout ça. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui on a une nouvelle identité en Christ, qu'on a quelque chose de nouveau qui peut naître en nous, qu'on peut devenir, on a un nouvel héritage qui n'est plus l'héritage en Adam, mais l'héritage en Christ. Et j'aime beaucoup cette phrase de C.S. Lewis qui dit « Le Fils de Dieu s'est fait homme pour permettre aux hommes de devenir fils de Dieu ». On pourrait traduire aussi différemment, le Fils de Dieu s'est fait homme pour rendre capables les hommes et les femmes de devenir fils et fille de Dieu. Mais revenons un petit peu avant cet événement marquant que je viens de mettre un peu en exergue. Revenons à ce verset, quand le moment décidé par Dieu est arrivé. Dieu a envoyé son Fils. Parce qu'il y a eu tout un temps avant ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé avant que se réalise cet événement extraordinaire? Ce n'est pas le jeu du hasard. Dieu s'est dit peut-être, voilà, on va envoyer Jésus à ce moment-là. C'est tout préparé. Il y a toute une préparation. Et la première venue du Messie, hein, parce qu'on attend sa deuxième venue, s'est fait longtemps attendre. Il y a ce qu'on appelle l'attente messianique. Qu'est-ce que l'attente messianique? Une belle horloge des CFF, parce qu'on sait qu'il faut être à l'heure en Suisse. Je me suis dit, j'opte pour quelque chose de pratique ce matin. Voilà donc à ce moment, qu'est-ce qui s'est passé dans cette attente? Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël attendait un Messie. Le peuple d'Israël attendait en hébreu, le Messie c'est Mashiach, c'est celui qui est oint, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu. Et le Messie était porteur de plein de promesses. Il devait restaurer la justice et la paix, il devait sauver le peuple de ses ennemis, rétablir le royaume de Dieu et apporter une ère nouvelle de bénédiction. Et cette bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle tout ça, vous êtes d'accord hein, avec moi, a été annoncée par des prophètes, des grands prophètes comme Ésaïe et comme Jérémie, comme Ézéchiel, comme Michée. Souvent d'ailleurs dans des contextes difficiles. Alors que le prophète annonçait des jugements, et Dieu fait comme ça, des fois il y a des jugements sur les nations, mais des fois sur Israël, il y a une fenêtre d'un coup qui s'ouvre comme ça. Dans les prophètes, si vous lisez les prophètes, il y a beaucoup de jugements. Et d'un coup, on respire un petit peu là. Là, il y a une fenêtre qui s'ouvre sur l'espérance, sur l'annonce d'un royaume à venir, d'un homme, une ère messianique extraordinaire, un roi idéal qui va venir régner, un descendant de David, un homme né, un enfant né d'une vierge. La jeune fille, les traductions, mais voilà, traduit dans la Septante par la Vierge. Et c'était compris comme ça à ce moment-là. Et donc, du coup, beaucoup de petites choses comme ça, Bethléem, un descendant, un homme rempli de l'Esprit de Dieu qui règnera avec justice. Et le dernier livre prophétique, le dernier livre qui est Malachie, vraiment, c'est les derniers versets de la Révélation, ça se termine comme ça, l'Ancien Testament se termine comme ça. « Voici, je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour grand et redoutable, avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. » D'ailleurs, les Juifs disent « grand pour ceux qui l'attendent et redoutable pour ceux qui ne l'attendent pas. » Avant la venue du jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Et voilà. Voilà les dernières paroles qui ont été dites. Et après ces paroles, silence total. Plus rien. Plus rien du tout. Et on entre dans l'attente. Pas une attente de 5 ans. Pas une attente de 10 ans. Pas une attente de 50 ans. Pas une attente de 100 ans. 400 ans d'attente. 400 ans d'attente. Je vous rassure, hein, vous n'êtes pas toujours obligé d'attendre 400 ans que le Seigneur vous fasse quelque chose dans nos vies. Mais c'était tellement... D'ailleurs, souvent, l'attente, plus la chose est extraordinaire, plus l'attente est longue. Et plus la préparation est longue. 400 ans d'attente. Parce que Malachie a profité en 430 avant Jésus-Christ et la naissance de Jean-Baptiste, qui est le nouvel Élie. Et je ne vais pas développer ça ce matin. Il va naître au 1er siècle. Et il va précéder la venue du Messie Jésus. On appelle cette période le silence prophétique intertestamentaire entre les deux testaments, entre la venue de Jésus et la dernière parole de Malachie. C'est un silence prophétique parce qu'il n'y a aucun prophètes canoniques, comme Ésaïe, Jérémie, qui s'est levé pour donner des paroles. Il n'y a eu aucune révélation majeure officiellement reconnue. Il n'y a eu aucun livre inspiré ajouté aux autres. Dieu semble ne plus envoyer de porte-parole au peuple d'Israël comme auparavant. Imaginez la tension du peuple de Dieu, la tension spirituelle de cette attente en eux. Il y a ces promesses extraordinaires, mais ça ne vient pas. Pire, le peuple d'Israël va être soumis à différents empires, royaumes, comme les Assyriens, les Grecs et les Romains. Vraiment tout le contraire. Vraiment, et cette attente, imaginez la tension que devaient vivre ceux qui attendaient ces promesses de Dieu. « Seigneur, jusqu'à quand l'accomplissement de ta promesse ? Tu nous as oubliés. On ne voit rien, on n'entend rien. Où es-tu ?» Et je voudrais vous montrer ce matin que malgré le silence apparent de Dieu, malgré cette absence de Dieu entre guillemets, Dieu était bien présent. Plus que présent. Il était souverainement, et on a chanté souverain ce matin, il était souverainement à l'œuvre durant toute cette période. Et je vais vous le montrer. Il a préparé quelque chose. Il a mis en place les choses pour apporter, pour permettre que la venue de Jésus-Christ puisse être un déploiement incroyable de la bonne nouvelle et de l'annonce de l'Évangile. Donc, c'est clair que c'est un silence de révélation, mais pas une absence de l'action de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que Dieu a fait pendant cette période ? Prenons quelques exemples qui montrent comment Dieu a préparé non seulement la venue du Messie, mais l'expansion de l'Évangile et de l'annonce de la bonne nouvelle de l'Église. Dieu va commencer par préparer le contexte politique. Il y a eu plusieurs dominations, dont par exemple la domination grecque. Mais elle a été bénéfique, cette domination grecque. Donc avec Alexandre le Grand qui a conquis vraiment de manière fulgurante tout l'Orient et puis le pourtour méditerranéen et qui a répandu la langue grecque de manière extraordinaire, une langue commune qui a unifié tous ces peuples qui avaient leur langue, qui était, on va dire, l'anglais de l'époque, le grec koiné. Et c'est la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit. Pas en hébreu. Même si on aime hébreu, même si on aime l'hébreu, même si on aime Israël, même si c'est la langue de Dieu, pour certains. Mais non, Dieu a voulu que ça soit écrit en grec. Et cette langue a permis que l'évangile, la bonne nouvelle, soit comprise de tous. Et il a fallu du temps pour mettre ça en place. Vous pensez bien. Il a préparé aussi un autre empire qui est arrivé, qui a apporté autre chose. Il a apporté les routes, la sécurité et la stabilité. Les Romains ont construit des routes solides. Ils ont instauré ce qu'on appelle la Pax Romana. C'est une sorte de grande période de paix avec un système juridique stable qui a permis finalement aux apôtres de voyager en sécurité parce qu'il y avait des brigands, il y avait une insécurité qui était là et pour annoncer l'Évangile. Vous voyez ces routes de qualité avec différentes couches et vous voyez en tout petit, vous voyez l'Europe là et cette cartographie de chemins, de routes qui relient tout le pourtour méditerranéen. Dieu a encore préparé le contexte religieux. C'est la naissance de mouvements religieux comme les pharisiens, les sadducéens, les esséniens qui ont commencé à ce moment-là. Et ces courants ont développé et développent et discutent intensément de la loi, de la pureté, de la fidélité à Dieu. Ils vont être auprès du peuple aussi pour certains. Et cela va créer encore une attente plus forte du Messie. Et la Septante aussi. C'est une traduction grecque de l'Ancien Testament. Il y avait beaucoup de Juifs qui vivaient depuis qu'ils avaient été exilés. Il y avait beaucoup de Juifs qui vivaient hors d'Israël. ce qu'on appelle la diaspora juive. Et par exemple, il y a une diaspora très importante en Égypte, à Alexandrie. Alexandre, justement une ville fondée par Alexandre le Grand, et il y avait une diaspora très importante, et du coup ils étaient éloignés de l'hébreu, de la pratique de l'hébreu. Donc on se dit, on veut une langue, on veut l'Ancien Testament dans la langue qu'on pratique, donc on la veut en anglais, en grec de l'époque. Alors du coup, ils ont demandé à ce qu'il y ait cette traduction 250 ans avant Jésus-Christ de tout l'Ancien Testament en grec, qui a permis en fait de relire les prophéties messianiques, les promesses de Dieu, l'histoire du peuple d'Israël, non seulement par les juifs, mais par les non-juifs. Ça a ouvert un accès à l'évangile, ça a préparé la venue de l'évangile, la venue de Jésus, parce que ça a préparé les mentalités, la culture. C'était des cultures païennes qui ne connaissaient rien aux promesses de Dieu. Et voilà cette traduction. Et Paul et les apôtres, dans leur écriture du Nouveau Testament, citeront massivement la Septante. Citeront massivement, alors qu'ils avaient accès aux originaux en hébreu, ils citeront plutôt la Septante, vraiment, parce que la traduction qu'avait fait la Septante, ils la reprennent. Ça, c'est un exemple de la Septante. À gauche, c'est l'hébreu, et au milieu, c'est du grec ancien, parce qu'il est en oncial, plus grand, en lettre capitale, et après, ça va se développer en minuscule par la suite. Mais voilà donc un peu le texte. Et autre chose encore, préparation aussi par les synagogues. La synagogue, c'est quelque chose d'assez récent qui date de l'exil. Parce qu'il y a eu la destruction du temple, donc les synagogues ont commencé à se développer. Et elles vont se développer de plus en plus dans le monde de l'époque. Et ces juifs dispersés partout fondent des synagogues. Elles deviendront des lieux de culte, des lieux de la lecture des Écritures et des points d'entrée pour Paul, quand il va commencer à faire ses voyages missionnaires dans le livre des Actes. Et ici, vous avez une carte du 1er siècle, et sauf erreur, avant, et on voit différents points. On voit, regardez toutes ces synagogues, certains qu'on a retrouvés, d'autres c'est par des papyrus qu'on a su qu'il y avait une synagogue là, on a retrouvé certains restes. Et on voit que vraiment, c'est la partie, l'Asie mineure, la Turquie actuelle, la Grèce, c'est là aussi que Paul est allé. Et c'est là aussi que Paul a commencé à entrer dans les synagogues pour annoncer l'évangile, puis après aux non-juifs. Et on voit que cette expansion de l'évangile a été beaucoup plus facile grâce aux synagogues, ce qui n'aurait pas été le cas. Dieu prépare aussi le contexte spirituel pendant ce temps. On voit qu'il y a plus personne ne parle au nom de Dieu, il n'y a plus de prophètes qui se lèvent pour annoncer, alors qu'est-ce qu'on fait ? On relit les prophéties. Qu'est-ce qu'on fait ? On espère la délivrance. On attend la voix qui crie dans le désert. Il y a une soif spirituelle intense qui grandit et qui va rendre la venue de Jean-Baptiste encore plus percutante. Pourquoi Jean-Baptiste a eu autant de succès ? Non seulement il avait l'Esprit de Dieu, mais on voit qu'il y a quelque chose qui a été préparé par Dieu. Ça nous rend humbles hein, quand on a du succès, comme Jean-Baptiste, quand on voit que Dieu a préparé les choses. Et on y reviendra. Et la purification du monothéisme. Après l'exil babylonien, Israël a définitivement abandonné l'idolâtrie, en fait a voulu abandonner l'idolâtrie, parce qu'ils ont compris que c'est parce qu'ils ont été dans l'idolâtrie que Dieu les a déportés en exil. Donc il y a eu un désir avec ces mouvements aussi, comme le pharisianisme, de revenir vraiment à cette pratique et à cet attachement à l'Écriture, à la fidélité à l'Alliance et l'espérance du royaume de Dieu. Et quand tout ceci, dans le plan souverain de Dieu, a été mis en place, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Amen. Dieu n'est jamais en retard. Même après 400 ans, Dieu n'est jamais en retard. Pourquoi je vous parle de ça ce matin ? Parce que quand Dieu parle, quand on reçoit une parole prophétique, il peut y avoir un temps d'attente. Quand Dieu dit quelque chose sur ta vie, quand Dieu dit quelque chose sur une église, quand Dieu dit quelque chose sur une nation, quand Dieu dit quelque chose sur le monde, parce que Dieu voulait envoyer son Messie, il peut y avoir un temps d'attente plus ou moins long. Je vous ai pris l'exemple le plus extrême, on est d'accord. Et quand Dieu a parlé dans ta vie, tu crois que ça peut arriver demain, comme ça. Et tu as l'impression que ça ne vient pas. Et tu as l'impression, mais Dieu, tu m'as parlé vraiment ? Non, tu m'as parlé, mais il ne se passe rien, tu ne me parles plus, on désespère, tu m'as abandonné. Non, Dieu prépare ce qu'il t'a dit. Il te prépare toi et il prépare les gens autour de toi. Ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que c'est pas si Dieu t'a donné une parole, une fonction, un appel, tu n'es pas tout seul dans cet appel. On est tellement centré sur nous, égocentrique, de ce que Dieu m'a dit. Mais Dieu, il nous fait travailler ensemble. Il fait des choses pour nous mettre ensemble. Je ne suis pas le centre du monde. Je suis dans le plan de l'histoire de Dieu. Et trop souvent, on s'impatiente, on s'énerve. Ce silence devient insupportable. Oui, tu fais partie du plan de Dieu, mais aussi d'un plan plus global. Et il y a des détours, des temps d'attente, des temps de difficulté, des temps de désert qui peuvent être des temps de préparation personnelle, mais des fois, c'est juste des temps d'attente. Si Dieu veut que 3 personnes amènent un changement dans une église, imaginons, prenons ce scénario. Il y en a peut-être une qui est déjà dans l'église, mais peut-être que 2 autres ne sont pas dans l'église. Dieu appelle, t'appelle et te qualifie, te met dans cette église. Puis toi, tu attends. Parce que peut-être qu'il faut faire déménager l'autre qui est en Syrie, qui va venir par un chemin, et peut-être qu'il y en a un autre qui doit changer de travail pour arriver ici. Dieu t'a dit, Dieu va faire quelque chose, mais il met en place les choses que tu ne vois pas. Et il amène les personnes pour que, à l'instant T, au kairos de Dieu, la promesse, le changement peut arriver. Là où Dieu t'a appelé, avec les gens avec qui Dieu t'a appelé. Je suis désolé de vous décevoir ce matin, mais vous n'êtes qu'un rouage dans le plan de Dieu. Mais ça contraste tellement avec Dieu est là pour moi, Dieu est là pour moi, il est là pour m'encourager. Non, tu es là aussi pour faire ta mission. Dieu t'a appelé, oui, tu fais partie de son plan, mais de son plan global. Tu n'es qu'un rouage, désolé de vous le dire, d'une poussière du grand plan de Dieu. Ça vous fait du bien, tout ça, j'espère. Moi, ça me fait du bien. Moi, ça me fait du bien, en tout cas. Je me dis, voilà, c'est Dieu qui est au contrôle. C'est ça que je veux dire ce matin. Tu n'es pas le centre. Vous savez, quand j'étais pasteur ici, j'étais pasteur second à côté de Christophe, il y a eu un moment donné où je me suis dit, ouais, j'ai fait mon temps, je vais partir. Mais c'était mes pensées humaines. Et un jour, il y a une parole vraiment de Dieu qui m'a dit, tu dois rester ici. Je dis, oulala, ça faisait déjà plusieurs années que j'étais là. Et je me disais, mais non, c'est peut-être l'occasion pour moi aussi de prendre mon envol et puis aussi de faire autre chose. Dieu m'a dit, ta place est ici. Tu auras des opportunités ailleurs, mais n'y va pas. Or, ça, c'est pas évident, vous voyez ce que je veux dire. Il y a eu quelques... Et j'ai réalisé qu'en fait, j'ai dû obéir à Dieu. Et puis, très peu de temps après, enfin un moment après, il y a eu un truc incroyable, c'est que Christophe et Sabine, qui étaient pasteurs ici, sont partis. Enfin, Dieu les a pris, les a déplacés pour l'œuvre à laquelle Dieu avait pour eux. Et je me suis dit, mais si je n'avais pas écouté Dieu à ce moment-là, j'avais bien envie de partir, mais pas parce que je ne vous aime pas, hein, parce que je me disais, Seigneur, ben voilà, il y a un pasteur en place, il y a peut-être des nouvelles choses que Dieu veut faire, peut-être mon temps est ailleurs, tout simplement. Je n'étais pas du tout dans une perspective très précise. Et Dieu a déplacé comme ça. Parce que c'est Dieu qui fait son église. Ce n'est pas nous. Et si je n'avais pas écouté Dieu, ben, peut-être que je ne verrais pas les belles choses que Dieu fait en ce moment et que Dieu va faire. Parce que je vois que Dieu équipe l'église. Dieu envoie, Dieu répond. Alors voilà, si nous sommes impatients, si nous partons, alors nous pouvons passer à côté du plan de Dieu. Et j'aimerais vraiment vous Moi, j'aimerais vraiment remercier les gens qui sont là depuis des années. Je suis un peu ému. Désolé. Moi, je suis touché par les gens qui sont là depuis des années, qui persévèrent, qui ont connu tous les changements, qui se sont battus, qui ont accepté les changements, qui ne sont pas été impatients et qui ne sont pas partis. Et j'aimerais, je ne parle pas de moi, hein, je parle de ceux qui sont encore là avant moi, donc j'aimerais vraiment vous dire merci pour d'être resté jusqu'au bout. Désolé. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Merci pour qui vous êtes. Vous êtes des exemples de patience et de foi. Et j'aimerais vous remercier au nom du Seigneur, pas du mien, mais je vois toutes ces années où vous avez patiemment attendu, où vous avez vécu tellement de choses pour que Dieu puisse faire entrer l'Église dans une nouvelle étape aujourd'hui. Alors qu'on est dans ce temps de l'Avent, on se souvient que Dieu, nous on n'attend que 4 dimanches en fait, pour se souvenir de ce temps d'attente. 4 dimanches, mais certains ont attendu 400 ans. Donc on voit que notre temps d'attente, c'est rien. Cette attente de Noël, c'est vraiment tranquille. Donc j'aimerais qu'on se souvienne que ceux qui nous ont précédés dans la foi, dans le peuple d'Israël, qui ont attendu le Messie, sont des exemples aussi de patience, de foi et de confiance dans les promesses de Dieu. Et Dieu, vous savez ce qu'il fait? Il annonce sa deuxième venue. Il a dit « Je reviens bientôt ». Ça fait 2000 ans que ça dure. C'est une autre attente, celle-là. Et il y a des gens, ils courent après les prophéties. C'est la fin des temps. Mais ça fait 30 ans que j'entends ça. Avant, c'était on cherche des signes de la fin des temps. Alors, un temps, c'était l'URSS. C'était l'URSS, le grand empire mondial qui allait être l'Antichrist. Donc, on a passé toutes sortes d'étapes, mais toutes ces personnes se sont trompées. Et des fois, je pense qu'on s'impatiente et on cherche des signes aussi parce que c'est la nature humaine. Certains annoncent des dates de retour et malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais continuons à attendre, laissons Dieu faire son œuvre, sachant que c'est le Dieu de l'histoire qui fait l'histoire, décentrons-nous de notre propre histoire pour entrer dans la grande histoire de Dieu. Faisons confiance à Dieu qui conduit l'histoire et qui fait une œuvre extraordinaire. Il agit et il prépare tout jusqu'au temps marqué. Et lorsque les temps seront accomplis, alors Jésus reviendra. Amen. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Il mettra un terme au mal et au péché. Il règnera sur les nations et il finalisera l'œuvre qu'il a commencée. Alors, ne désespérons pas, nous sommes dans ce grand plan, nous avons notre place. Et dans mon histoire à moi, les promesses que Dieu m'a faites, les paroles prophétiques que j'ai reçues, ne les hâtons pas. Attendons avec confiance leur accomplissement. Car Dieu fait ce qu'il dit et prépare toujours ce qu'il fait. Dieu fait ce qu'il dit et prépare toujours ce qu'il fait. Amen. Je terminerai avec cette image du cadeau. Vous savez qu'on est dans cette période de Noël où beaucoup de cadeaux circulent par la poste. C'est les pauvres qui portent ces cadeaux. Prions pour eux, pour leur mal de dos, leur lumbago. Mais beaucoup de colis partent, viennent, disparaissent des fois dans les couloirs des immeubles. Mais beaucoup de choses se passent avec les colis. Et j'aimerais vous donner une image de ce colis pour votre promesse à vous, ce que Dieu vous a dit. Le colis est parti, la promesse est là, Dieu ne va pas revenir en arrière. Il a déjà mis le ticket avec votre nom, c'est parti. Ce n'est pas pour un autre, c'est pour vous. Et malheureusement, tu ne le vois pas ce colis, tout le chemin qu'il fait, tout ce qui par où il passe, par Dayan bien sûr, on est d'accord. Et on a quand même 2-3 indices, et puis on a quand même 2-3, on peut le suivre un peu en ligne, mais on ne sait pas tout ce qui se passe. Mais tu as cette assurance que Dieu a mis ce récépissé, cette promesse, c'est là, c'est écrit. Sois patient, Dieu est à l'œuvre. Attends avec foi. Et comme cette attente qui, d'un coup, quand ça arrive, vous savez ce qui se passe ? Il y a la joie. Quand il y a eu Anne qui a vu cet enfant, quand il y a eu Siméon qui attendait et qui voit cet enfant, quelle joie, quel psaume magnifique, quel cantique ils ont dit. Et cette joie, cette grande joie, va jaillir dans ton cœur quand tu recevras, tu verras l'accomplissement que Dieu a voulu. Mais lorsque les temps de Dieu, quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme qui a vécu sous la loi de Moïse et est venu pour rendre la liberté à ceux qui vivent sous la loi, pour faire de nous des enfants de Dieu. Amen. Gloire te soit rendue, Seigneur. Qu'on puisse juste élever le nom de Jésus. Qu'on puisse juste se centrer ce matin sur Jésus. Et fermons nos yeux, j'aimerais juste passer un chant qui glorifie Jésus. Parce qu'il est le centre de tout. Il est le centre de l'histoire et il est le centre de notre histoire. Que ce matin, on puisse passer un petit moment avec lui. Et on va écouter cette chanson. Merci, Josie, pour cette composition de quelqu'un qui l'a faite. On va juste écouter ses paroles et terminer dans un temps seul à seul avec Jésus, si vous le permettez.
Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas dominée. Son nom est sagesse, lumière, parole, Emmanuel, Messie, sauveur, berger, étoile du matin, unique, amour divin. Jésus, son nom personnel, sauveur, celui qui apporte le salut. Christ, signifiant loi ou le Messie. Roi des rois, régnant au-dessus de tous. Prophète des prophètes, apportant les paroles de vie. Prêtre des prêtres, l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Fils de l'homme, souligne son humanité. Fils de Dieu, nous ouvre le chemin vers le Père. Rédempteur, celui qui rachète l'humanité. Maître, en référence à son enseignement et son autorité. Seigneur, celui qui a l'autorité suprême. Agneau de Dieu, évoquant son sacrifice pour le péché. Lumière du monde, représente la vérité qui nous guide. Bon berger, qui soigne et qui protège. Pain de vie, qui nourrit spirituellement. Cep de vigne, qui établit la connexion vitale avec ses disciples. Alpha et Oméga, début et fin de toutes choses. Son nom est sagesse, lumière, parole, Emmanuel, Messie, sauveur, berger, étoile du matin. Commencement était celui.
Que plusieurs puissent faire monter leur prière maintenant. Je trouve que cette chanson avait des paroles tellement puissantes que notre cœur puisse parler maintenant à notre Seigneur. Prenons voix.